A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
La radio de Lévis.
Suivez-nous sur TuneIn.
La bulle immobilière, présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com.
Yes, lui, il va l'acheter ton bloc. Airfortin.com, yes!
3, 2, 1.
Ready for takeoff.
Let's go!
La bulle immobilière. Chaque semaine, on parle de divers sujets pour vous tenir bien informé sur tout ce qui touche l'immobilier. Des experts, des discussions, des questions et des réponses. Avec votre animateur, Jeff Morin, courtier immobilier commercial et multilogement. Et Sylvie Bougie, avocate en droit des affaires. Pour le meilleur show en immobilier sur la rive sud et sur la rive nord. Un contenu détaillé. C'est là que ça commence. La bulle immobilière. On vous en apprend pour vrai sur l'immobilier.
969 FM.
Vous étiez à l'écoute du Jargon avec Guillaume Fortin. Mon nom, c'est Jean-François Morin, courtier immobilier. Puis, savez-vous quoi? On est sur nos dernières émissions de la bulle immobilière. J'ai eu l'opportunité, une occasion d'affaires incroyable d'animer la bulle immobilière avec toi, Sylvie. Je te remercie pour toutes ces saisons-là, Colin.
Ouais.
Je m'en fâche.
Trois saisons, oui. Dernière émission ensemble. Mais moi, en fait, je compte bien venir comme remplaçante là, une fois de temps en temps, si tu me le permets, évidemment. C'est parce que effectivement, moi aussi, c'est un pincement au cœur. J'avais annoncé au début de la saison que j'avais pris la décision d'arrêter par manque de temps. Hein. On manque de temps dans nos implications. Faut faire des choix difficiles. Donc, je l'avais dit au début de la saison parce que je savais qu'arriver à la fin comme ça, j'aurais pas eu le goût de m'en aller. Et c'est ce qui se passe. Je n'ai pas le goût non plus de m'en aller rencontrer des gens passionnés dans leur domaine à chaque semaine, tu sais, en apprendre, avoir la chance de te côtoyer. T'es une inspiration, Jeff. Là, t'es vraiment travaillant. Et là, tu reviens en plus. Moi, j'en reviens pas parce que t'es hyper impliqué. Tu travailles non-stop. Puis tu trouves le temps de partir, genre, dans un chalet, quasiment une semaine de temps pour un party de Noël. Tu me parles d'un team building, là. Ça, c'est un bel exemple, pour vrai. Tu peux vraiment être fier. Fait que qu'est-ce que vous avez fait avec l'équipe Jean-François Morin?
Ben, écoute, pour vrai, là, on est parti mercredi le 22 pour revenir le 26 le dimanche.
Quand même!
C'est quand même complètement fou. Puis, tu sais, dans le fond, nous, de la façon qu'on procède, c'est que la première journée, c'est toujours une soirée d'équipe. Fait que, tu sais, on passe du temps en équipe. C'est seulement notre personnel administratif, les courtiers immobiliers. C'est vraiment juste notre gang. On a fait un nacho peut-être de 10-12 pieds de long. c'était incroyable, là, qu'est-ce qu'on a fait là. C'est malade. Sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup de spas, beaucoup, beaucoup de boissons. Fait que, tu sais, mais on est dans un environnement clos où, tu sais, il n'y a personne qui sort, personne prend son char. Mm-hmm. Fait que, tu sais, ça a été que du bonheur. Ça a été vraiment le fun. Le lendemain, nos familles viennent nous rejoindre. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment cool. Mm-hmm. Puis là, on avait engagé une gardienne pour garder nos enfants parce que nous, on s'en allait en autobus limousine au Bootlegger. Fait qu'écoute, on est parti entre 20 et 30 au Bootlegger en autobus limousine. On est allé faire le party là-bas. On est revenu en autobus limousine. Fait que personne prend son char. Tu sais, citoyen corporatif incroyable.
Ouais.
Puis on est revenu. Puis on est revenu là-dedans. Puis tu sais, c'était vraiment le fun. Le vendredi, ben on reçoit nos partenaires d'affaires. On invite tous nos partenaires d'affaires à venir dîner avec nous, venir prendre un verre, venir voir le chalet, etc. Fait que les gens viennent avec nous, viennent réseauter, viennent nous voir dans un autre contexte que de l'immobilier. Fait que c'est quand même super cool. Puis le samedi, dimanche, ben c'est souvent des journées un peu plus libres qu'on peut faire ce qu'on veut. Puis nous, le samedi, ben on a joué à Cash Flow. Puis tu sais, pour les gens qui savent pas c'est quoi le jeu Cash Flow, c'est le jeu de Robert Kiyosaki qui a écrit Père riche, Père pauvre et d'autres. Mm-hmm. Livre super intéressant aussi, mais c'est un Monopoly pour adultes, pour comprendre à mieux gérer ton argent, puis de te faire comprendre qu'il faut que tu sortes du rat race. Il faut que tu arrêtes de courir après ta queue, paye en paye, paye en paye, paye en paye. Faut que tu réussisses à avoir des revenus passifs pour faire en sorte que quand tes revenus passifs dépassent tes dépenses, ben là, c'est là que tu commences à devenir, avoir une meilleure qualité de vie puis d'avoir une certaine liberté financière. Fait que, tu sais, c'est quand même très cool. Puis
ben ouais.
Bien que, tu sais, on est tous des courtiers immobiliers, on est impliqués là-dedans à temps plein. Fait que ça fait en sorte que, tu sais, c'est des jeux qui sont ultra connexes avec nous.
Mm-hmm.
Puis, tu sais, il y a des discussions, il y a des affaires que les gens connaissaient pas. Puis t'es comme, waouh, c'est vraiment cool. Puis on a la version 202 aussi. Fait que, tu sais, la première étape, c'est de comprendre comment ça marche. Puis un coup que tu sais comment ça marche, ben là, tu peux passer avec... la version 202, où ce que là, tu sais, il y a des nouveaux défis qui s'appliquent. Fait que ça va être notre prochaine retraite qu'on va s'en aller avec ça. Puis les gens ont tellement aimé que notre prochaine formation d'équipe, ça va être de jouer à ça pour la formation d'équipe. Fait que je trouve ça vraiment le fun.
Vraiment, là. Vraiment. Mais bravo pour tout ça, Krim. Les gens sont choyés. La participation était au rendez-vous. Tout le monde était présent.
Tout le monde était présent.
Très hot.
On a eu quelques situations de dernière minute où ce que tu sais, le travail a pris en sorte que les gens n'ont pas pu venir. Puis c'est correct aussi, mais l'ensemble de l'équipe a toujours été là. Puis tu sais, majoritairement, on le fait proche à Stoneham.
Mm-hmm.
Mais tu sais, comme c'est proche à Stoneham, ben les gens en profitent. Tu sais, Charlebourg, c'est pas loin. Québec, c'est pas loin. Fait que tu sais, je vais prendre une heure et demie puis je vais faire les visites, tandis que là, on était à Charlevoix.
Mm-hmm.
Fait que ça faisait en sorte qu'il n'y avait pas personne qui voulait faire l'aller-retour d'une heure et demie, aller une heure et demie, revenir, pour dire, ah ben finalement, j'avais une visite à Saint-Jean-Chrysostome. Fait que, tu sais, les gens ont resté avec nous. Puis, tu sais, ça fait des parties mémorables, ça fait des souvenirs vraiment cool. Puis, il ne faut pas oublier que le samedi, nous, le Père Noël vient. Fait que là, le Père Noël vient donner des cadeaux à tous les enfants de toute notre équipe. Fait que c'est vraiment cool.
Ouais. Là, en parlant de ça, ça fait vraiment du bon contenu pour tes réseaux sociaux, pour ta marque employeur. Ben, toi, c'est pas des employés que t'as, mais on comprend le principe de, tu l'as dit, là, d'être un beau citoyen corporatif aussi, du super contenu. Fait que là, on va se demander aujourd'hui comment on utilise ce contenu-là. On s'en va vers un peu le marketing. Et là, il faut que vous restiez à l'écoute parce que c'est pas les publicités, c'est pas l'agence comme on avait rencontré Mathieu Jean il y a quelques semaines. On vous amène sur d'autres sujets, plus de formation. Aujourd'hui, on va apprendre vraiment beaucoup d'informations. Donc, restez vraiment là. Ça va être une émission hyper pertinente. Donc, on reçoit Christelle Soré, coach marketing. Comment ça va?
Ça va bien, vous autres?
Mais oui, ça va super bien. Fait que là, j'imagine que tu entendais Jeff parler puis tu avais plein d'idées de contenu. Hein.
C'est clair. Puis la marque employeur, t'en as parlé. Là, c'est un élément qui est tellement important aujourd'hui de le mettre sur les réseaux sociaux pour que d'autres courtiers aient envie de faire partie de votre équipe. Puis honnêtement, ce que tu as fait, puis avec ce que j'ai vu aussi dans le studio, tu as plein de choses à mettre sur les réseaux sociaux.
Ah oui, 100%. Puis c'est une des raisons pourquoi que Vincent est avec nous. Il fait des créations de contenu, des vidéos. On est en train de faire une vidéo, puis je le donne en exclusivité pour le Centre de pédiatrie sociale de Lévis. Nous, on a des implications majeures pour donner des dons à des organismes. L'année passée, on a donné 70 000. Cette année, on va être tout près encore du même montant. Puis, tu sais, le Centre de pédiatrie, c'est notre organisme chouchou. Il va avoir bientôt la guignolée en décembre. Puis, tu sais, quand je te disais peut-être notre dernière, j'aimerais peut-être ça te proposer un petit quelque chose tantôt. Fait qu'on pourra en reparler. Mais on est en train de faire une vidéo, justement, pour promouvoir le Centre de pédiatrie puis les implications qu'on peut avoir avec eux. Fait qu'écoute, on est là. Vincent, il a fait un behind the scene incroyable. Tu sais, c'est une histoire de 20 secondes. Puis c'est 20 secondes de charme incroyable. Fait que c'est vraiment cool. Christelle, j'aimerais ça que tu puisses nous parler un peu de ton parcours, ton background. Tu sais, pourquoi le marketing arrive dans ta vie en date d'aujourd'hui? C'était quoi le background avant tout ça?
Bien, dans le fond, moi, ça fait 22 ans que je suis dans le domaine des communications numériques. J'ai travaillé, dans le fond, pendant l'université, j'ai travaillé du côté client. Fait que je faisais tout ce qui était communication. Communication numérique parce que ben, c'était une compagnie qui faisait des logiciels. Fait que par défaut, j'étais sur le web. Puis après ça, ben, je suis rentrée dans le monde des agences pendant quelques années. J'ai eu ma propre agence. On faisait des sites web, conception marketing aussi, brand et bien évidemment réseaux sociaux. Et depuis 2017 ou 2018, je ne fais que du coaching et de l'accompagnement. Fait que dans le fond, je rencontre des entrepreneurs comme vous autres. Mon objectif, c'est de leur faire comprendre l'univers du numérique, comment ça fonctionne les réseaux sociaux, pourquoi être sur les réseaux sociaux. Fait qu'autant un côté stratégique, technique aussi sur le comment faire que aussi comment se présenter, le contenu, etc., donc le volet stratégique. Puis, mon objectif, c'est qu'à la fin de mes coachings ou de mes formations, bien, ils soient capables de prendre le relais eux-mêmes parce que, veux pas, ça coûte cher, engager une agence.
Ben oui.
Fait que le fait de pouvoir comprendre et faire les actions soi-même, bien, souvent, ça donne des super bons résultats parce que, veux pas, l'humain derrière, c'est ça qui est... C'est ça qui est l'essentiel, dans le fond, quand on est entrepreneur, c'est nous-mêmes qu'on se vend, surtout ouais. Dans des cas, tu sais, de courtiers immobiliers ou même des équipes de courtiers ou des entrepreneurs en soi. Bien, la personne derrière, c'est souvent elle qui est la plus importante. Fait qu'en apprenant comment faire, bien, les gens vont avoir un côté naturel à plus se présenter, se mettre de l'avant. Ça donne
développer des réflexes, justement, de se dire là, ça serait du bon contenu, puis je vais savoir comment l'utiliser. Puis j'imagine aussi avec tous les roulements de personnel, tu dois apporter une belle plus-value aussi de former aussi des nouveaux employés qui rentrent là, dans l'entreprise.
Oui,
là.
Puis ça t'amène un bon point, l'implication des employés là, dans, mettons, si on parle juste des réseaux sociaux au niveau marketing, mais l'implication des employés fait une énorme différence. Tu sais, j'ai mettons, un centre d'esthétique pour donner un exemple. Une de mes clientes, bien, elle avait envie de se déléguer de toutes ces affaires-là. Fait qu'elle a, on a décidé, dans le fond, que ça serait ses employés qui prendraient le relais pour leur Instagram à l'époque. Maintenant, ils ont pris d'autres choses. Mais écoute, le contenu, c'était du bonbon. Les clients y arrivaient, puis ils étaient comme, « Hey, je t'ai vu! » Tu sais, un sentiment de reconnaissance. Puis les employés, bien, sont encore là, sont fiers. Ils partagent quand c'est leur photo ou leur contenu. Fait qu'il y a vraiment une synergie qui se crée, qui est bien plus intéressante que quand tu fais juste publier pour publier.
Ben oui. Puis que c'est tout le temps le même angle aussi, veut pas. Puis une façon de présenter le contenu. Fait que c'est clair qu'il y a aussi d'avoir une diversification, c'est bien. T'sais, puis on n'ose pas souvent se lancer des fleurs. Moi, j'ai remarqué que les fois que c'était justement pas moi qui faisais mes posts sur Instagram, exemple de mon compte de Vigie Service Juridique, que c'était plus Cathy qui s'en occupait. Mais ça me semble que c'est plus. C'est comme elle arrondit plus les angles, c'est beau, tu sais, la bulle, ce que vous écrivez sur moi, c'est super beau, des affaires que j'oserais pas écrire non plus. Fait que des fois, d'avoir le point de vue aussi, justement, des membres de ton équipe, ça amène du contenu que t'aurais pas, sinon, autrement.
Ça, c'est clair. Puis ça permet de mettre l'entrepreneur puis la personne devant aussi, parce qu'on se le cachera pas. Si les gens viennent te voir pour tes services d'avocat, bien, c'est toi qui veux l'avoir, pas nécessairement le brand en arrière. Le brand devient, il est important, mais il devient pratiquement secondaire à tout ce que toi, tu vas pouvoir projeter. Fait que le fait de te voir, que ça soit un look plus naturel, c'est ça la tendance sur les réseaux sociaux aussi, bien, ça fait que les gens, ils s'adaptent un petit peu plus aussi.
Et être à son compte, tu aurais pu être formatrice dans une agence encore, justement, comme employée. T'avais-tu une fibre entrepreneuriale en toi depuis la jeunesse ou c'est arrivé sur le fly?
C'est clair. Bien, en fait, j'avais un objectif de vie quand j'étais jeune. Avec ma sœur, on s'était dit, quand on va avoir 35 ans, on va se partir notre agence. Puis elle était dans l'événementiel à l'époque. Puis finalement, ben quand je suis tombée enceinte de mon premier, je travaillais à cette époque-là dans une agence dans le Vieux-Montréal. Puis là, tu sais, l'aller-retour, moi, j'habitais à Sainte-Marthe à l'époque. Puis, tu sais, c'est une heure et demie, là, aller, une heure et demie de retour. Fait que j'ai fait comme, oh non, là, c'est le temps de sauter à pieds joints. Puis entre-temps, ben je suis tombée enceinte de mes jumeaux. Puis là, ben pas de garderie pour les trois d'un coup. Fait que j'ai dit, OK, j'essaye, je me lance en affaires maintenant. J'avais 26 à ce moment-là, j'ai oublié exact, mais fait que, en tout cas, peu importe l'année exacte, là, fait que bref, j'ai commencé, je me suis lancée, j'ai fait mon agence, je travaillais dans mon sous-sol avec les enfants que j'allais porter à la garderie quand je pouvais, où ma mère venait garder, puis je commençais tranquillement à prendre des contrats, fait que ça a toujours été en moi. Puis, moi, j'ai une famille d'entrepreneurs. Dans le fond, ma grand-mère, Edith Seri, a été une pionnière de l'esthétique au Canada. Donc, il y a même une rue à son nom sur la Rive-Sud.
Wow! Ouais. Sur la Rive-Sud de Montréal ou la Rive-Sud de Québec?
La Rive-Sud de Montréal. Oui, ma Rive-Sud, c'est Montréal.
OK, parfait. Mais c'est quand même fou. Puis, tu sais, il y a plusieurs fois, moi, j'avais dit à ma blonde, ah, j'aimerais ça avoir des jumeaux, etc. Pour vrai, c'est pas une expérience à vivre, mais le démarchage d'apprendre à avoir des enfants avec des jumeaux, ça a dû être tout qu'un défi aussi, là.
Bien, c'était facile. C'était mes deuxièmes, entre guillemets. T'sais, mon grand, il avait juste 18 mois de plus, là. Il n'était pas si plus vieux. Mais comme n'importe quoi, quand tu as des enfants, bien, tu fais avec. T'sais, le monde sont comme, ah, waouh, tu avais ça. Mais ouais, c'est ça. C'était mon quotidien.
Bien, moi, c'est plus le fait que souvent, il me semble, les gens vont être portés des fois pour la sécurité. T'sais, se lancer en affaires quand tu as déjà des enfants, tu as des obligations, tu sais.
Ouais.
Moi, je trouve que c'est quand même vraiment... C'est hot, je trouve, là, tu sais. Parce que souvent, les gens, c'est ça, osent pas, ils vont vouloir une job stable, un salaire fixe, tu sais, des congés maladie payés, tu sais, tu comprends? Toi, t'es allé à l'inverse, là, complètement, là.
C'est ça, mais c'est sûr que quand tu pars en affaires, l'entrepreneuriat, faut que t'ailles cette fibre-là, faut que t'ailles envie, faut que t'ailles le goût du risque. Et c'est sûr qu'à l'époque, le père de mes enfants, je suis aujourd'hui divorcée, mais le père de mes enfants, il y avait un salaire fixe, fait que ça l'amenait une certaine sécurité aussi. Mais je pense que si je ne l'aurais pas fait à cette époque-là, je l'aurais fait un petit peu après, c'est sûr, là.
C'est le fun que tu sois entrepreneur aussi parce que tu parles le même langage que tes clients. Donc, tu es conscient de la réalité du budget, du temps. Oui. Et qu'on a à mettre aussi parce que tes clients, c'est plus des PME?
C'est des travailleurs autonomes et des petites entreprises. Fait que la réalité, c'est clair que c'est pas la même que quand tu travailles avec des agences qui ont beaucoup de budget, qui ont, tu sais, les Apple, les McDo, les Arby's, les gros brands. C'est pas la même réalité que, mettons, si je reprends l'idée du courtier hypothécaire ou courtier immobilier ou peu importe, le petit entrepreneur qui a tout à démarcher, tout à faire lui-même, ben, il n'y a pas ça, 100 ou 200, 300 000 pour faire une campagne publicitaire. Fait que c'est des moyens qui sont vraiment différents des autres.
Mm-hmm. Puis, tu sais, pour vivre les deux pieds dans le marketing comme courtier immobilier, parce que, tu sais, nous, qu'est-ce qu'on veut faire comme courtier immobilier, c'est de mettre le plus de gens en relation avec des propriétés que nous, on a en vente. Puis quand on a des acheteurs, ben, c'est de les mettre, eux, en relation avec le plus grand bassin de propriétés à vendre. Fait que, tu sais, cette partie-là est quand même difficile. Puis, il y a des fois des options de stratégie qui sont pas toujours évidentes puis qui doivent être séquencées d'une bonne manière pour arriver avec des bons résultats. Puis tu sais, du marketing, c'est pas juste d'envoyer des flyers par la poste puis il y a quelqu'un qui va me rappeler. Là, il y a une récurrence qu'on doit avoir, il y a un message qu'on doit avoir, il y a un call to action qu'on doit avoir, il y a un objectif qu'on doit réaliser avec ça. Puis souvent, les courtiers immobiliers, malheureusement, selon moi, puis tu sais, c'est mon opinion personnelle, c'est toujours du marketing, de branding pour regardez-moi, puis de la notoriété, regardez-moi, je suis bon. T'sais, ils ont des panneaux d'autoroute qui vont coûter des dizaines de milliers de dollars. Par contre, c'est pas de l'argent qui est investi pour vendre la propriété, c'est pas de l'argent qui est investi pour trouver une propriété qui fait en sorte que les gens ont l'impression qu'ils sont bons parce qu'ils le voient. Par contre, lui utilise son budget marketing pour se faire voir, pour augmenter sa notoriété. Fait que, tu sais, ça a des bons résultats quand même. Sauf que nous, on est dans l'optique où ce qu'on préfère prendre ce 10 000 $-là puis de l'investir directement sur nos clients qui va générer un boost sur eux, qui vont faire en sorte qu'on va réussir à plus d'en vendre de propriétés. Fait que ça, pour nous, c'est vraiment, vraiment plus performant aussi. Puis tu disais aussi qu'en 2018, quand vous avez fondé l'entreprise, ben, tu sais, il y avait la réalité des agences où ce que, tu sais, on paye puis, tu sais, on sait pas trop comment ça marche puis on va là-dessus. Moi, je fais affaire d'un programme avec Craig Proctor, avec Nous vendons votre maison, qui, eux, viennent enseigner aux courtiers à être des marketers. Parce que, tu sais, nous, comme courtiers, on sert à rien. Tant qu'aussi longtemps que j'ai pas d'acheteur, j'ai pas de vendeur, je sers à rien. Du moment où ce que tu comprends comment ça fonctionne le marketing, ben là, tu vas réussir à devenir beaucoup plus performant dans ta business. Parce qu'après ça, le courtage immobilier va s'appliquer par rapport à ça. Tu sais, pareil, comme avocat, tu peux exercer le droit, sauf que si tu n'as pas de clients, ça ne fonctionne pas. Mm-hmm. Fait que, tu sais, nous, on le travaille à l'inverse, parce qu'on va avoir un très gros bassin de clients pour réussir à pouvoir exercer notre profession de courtier immobilier. Puis ça a fait en sorte qu'on a des résultats incroyables avec ça aussi. Puis moi, une des choses que j'aime, c'est que tu l'expliques. Voici pourquoi, voici où, voici qu'est-ce qu'il y en est. Puis tu sais, moi, dans des formations ou dans des rencontres d'équipe, tu sais, je leur donne la vision, je leur donne la ligne directrice vers où qu'on s'en va. Sauf que d'un autre côté, les gens comprennent pas toujours vers où que je veux m'en aller. Fait que dans l'application, c'est pas toujours fait exactement vers où qu'on devrait aller. Ne porte pas l'importance à qu'est-ce que ça devrait être. Fait que ça fait en sorte que ça dérape. Fait que, tu sais, puis le fait d'avoir quelqu'un qui nous l'explique, qui peut l'expliquer aussi à ton équipe, etc., bien, ça fait en sorte qu'on devient beaucoup plus performant avec ça. Fait qu'un gros bravo. Puis si on parlait de services, c'est quoi les services que vous pouvez proposer?
Dans le fond, moi, je fais des services. Ben, j'ai différents types de manières de fonctionner. Souvent, ce que je vais faire, ça va être par programme de formation. Donc, le client va venir chez nous, puis on va se voir de manière régulière, selon son budget, bien évidemment, selon le temps et selon les exécutions qu'il peut faire. Fait que on va travailler vraiment toute sa stratégie marketing. Des fois, ça part du brand au site web, au contenu, comment se présenter, etc., à tout le contenu sur les réseaux sociaux, les infos, la fidélisation de la clientèle. Des fois, ça va même un petit peu plus loin vers la vente, les rappels, les suivis. C'est sûr que moi, je ne suis pas une coach en vente, mais tu sais, il y a des lignes directrices qu'on sait et qu'on amène par alliance. Fait que ça, c'est vraiment des stratégies avec de l'accompagnement qui est plus complet. Mais sinon, j'ai des clients qui viennent me voir, mettons, ils ont de la misère avec leur publicité Facebook, ça ne fonctionne pas, ils n'ont pas de conversion. Bien, on va travailler uniquement là-dessus. Fait que ça peut être de manière ponctuelle aussi. Puis, je donne aussi des formations de groupe occasionnellement. Et avec l'OACQ, j'ai 4 formations actuellement qui sont accréditées par l'OACQ. Fait que c'est des auto-formations qu'on retrouve sur le site de la PCQ ou sur le mien.
Puis, est-ce que les clients peuvent te rencontrer en Zoom, en Meet ou c'est vraiment personne?
C'est vraiment Zoom.
OK, parfait.
Moi, je suis 100% okay. Zoom. D'ailleurs, parenthèse, avant le COVID, moi, je me déplaçais tout le temps. Fait que, tu sais, mettons, si j'allais sur la rive sud de Montréal, dans le trafic, bien, c'était une heure et quart aller, une rencontre de 2 heures avec un client, je revenais. Maintenant, j'ouvre à -5 mon ordi, puis ouais. je le ferme après, j'enregistre et merci, bonsoir. Ça a été la meilleure affaire qui pouvait m'arriver.
Ah, ça sauve tellement du temps, ça n'a pas d'allure. Hein?
Ouais. Puis 100%, puis tu sais, nous comme courtier immobilier, puis moi j'ai commencé en 2011, les signatures électroniques n'étaient pas nécessairement encore en place 100%. Mm-hmm. On se déplaçait chez les clients pour une modification, pour un accusé réception, pour. Mais en même temps, qu'est-ce qui était vraiment très fort, c'est qu'il y avait des relations clients qui se développaient beaucoup plus fortes que juste des téléphones puis des Zooms aussi. Mm-hmm. Puis tu sais, on finit tout à un moment donné d'être un peu écœuré des Zooms puis des Teams, puis on a tout un préféré plus que l'autre aussi dans nos dans nos usages qu'on va en faire un plus que l'autre. Mm-hmm. Mais pour vrai, ça a changé complètement la game. Puis tu vois, notre équipe, c'est une des raisons pour laquelle on a réussi à faire des transactions pendant que la pandémie avait fermé les portes. On a fait 20 transactions pendant que les portes étaient fermées. Pourquoi? Parce qu'on faisait déjà des Zooms, on faisait déjà des signatures électroniques, on faisait déjà des visites virtuelles. Fait que, tu sais, nous, on avait tout aligné nos outils pour réussir à vendre. Ben, on a vendu 20 propriétés pendant la pandémie où est-ce que c'était fermé.
Ah,
ouais. Puis quand les portes ont réouvert, on a fait 45 transactions dans les 3 semaines suivantes.
Ouais. Là, quand c'était fermé, là, y achetais-tu la propriété vraiment juste avec la visite en ligne?
Non.
OK.
On mettait, puis tu sais, quand on dit qu'on a vendu, c'est vrai que c'était conditionnel à la visite lorsque les services allaient s'ouvrir. Okay, puis tu sais, on était dans les premiers à faire une clause qui disait, ben écoutez, on va faire une visite lorsque les services vont réouvrir. Parce que là, tu sais, on voulait pas mettre une date fixe, tu sais, dans le sens que on le savait pas quand ça allait arriver. Fait que là, tu sais, si on mettait le 30 avril, puis finalement, le 30 avril, c'est encore fermé. Puis là, on va mettre le 10 de mai, finalement, c'est encore fermé. Fait que, tu sais, on avait reparlé un délai de 10 jours suivant l'ouverture des services. Sauf que l'avantage qu'on avait, c'est qu'on avait le financement, tu sais, qui était déjà amené. Il restait juste à visiter et inspecter. Puis, tu sais, tout le monde a été dans le jus la première journée quand les portes ont été ouvertes, mais nous autres, on était prêts en tabarouette, là.
C'est de l'adaptation.
100% que ça a été de l'adaptation. Puis, ça fait en sorte que les gens qui innovent, les gens qui sont au courant de qu'est-ce qui se passe, puis les gens qui prennent, je veux pas dire des risques, mais qui sont plus à l'affût de qu'est-ce qui se passe, ben vont toujours prendre l'avance sur les autres aussi, là. Christelle, c'est vraiment, vraiment intéressant parce que, écoute, on va en avoir pour 1h30 de contenu, mais on a juste 45 minutes de contenu. On est obligé d'aller à la pause. Sachez que la bulle immobilière est toujours à la recherche de commanditaires pour notre émission. Et bientôt, on va offrir un magazine en ligne pour la bulle immobilière avec des articles sur nos invités, sur les animateurs, sur les gens qui vont être là. Si vous désirez avoir plus d'informations à ce niveau-là, contactez-moi directement. C'est Jean-François Morin au 418-801-8011 ou sur notre site jeanfrancoismorin.ca.
La bulle immobilière, présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com.
Yes, lui, il va l'acheter ton bloc. Fortin.com, yes!
CJMD 96.9.
La radio. CJMD!
Vous écoutez
CJMD 96.9. De retour à la bulle immobilière.
De retour à la bulle immobilière.
On est aujourd'hui avec Christelle Seré, coach marketing. Puis pour vrai, aujourd'hui, c'est que du bonbon. Autant en onde, autant hors d'onde. C'est vraiment, vraiment intéressant. Puis moi, c'est quelque chose qui m'allume. C'est quelque chose que j'aime. C'est quelque chose qu'on fait à tous les jours, matin, midi, soir, la nuit, les nuits blanches. On en fait tout le temps du marketing. Puis je trouve ça extrêmement intéressant. Mais j'ai des questions, moi, au niveau du marketing. Tu sais, on a beaucoup d'informations qu'on peut trouver partout. Tu sais, différenciez-vous, faites ci, faites ça. Oui, c'est important d'avoir une présence en ligne, mais de quelle façon qu'on devrait le faire?
Mais la première chose à savoir, c'est que surtout quand on est travailleur autonome ou une petite entreprise, on n'a pas tout le monde les mêmes réalités. Fait qu'il faut apprendre à respecter qui on est, nos aptitudes, nos connaissances, qu'on a envie de faire, tu sais, hors d'onde. Je viens tout de suite dans ta question. Tu me parlais, qu'est-ce que je fais, mettons, avec des courtiers qui n'aiment pas se présenter ou être visuellement devant une caméra? Parce qu'on s'entend que la vidéo, c'est quelque chose qui est hyper tendance. Puis c'est, en ce moment, c'est la vidéo qui fait que les gens sortent du lot beaucoup plus. Bien, il faut apprendre à respecter qui on est parce que quelqu'un qui se met devant une caméra, qui n'est pas à l'aise, c'est clair que ça va paraître. Ça ne fera pas du bon contenu puis les gens n'embarqueront pas non plus là-dedans. Fait que c'est de trouver un moyen, par exemple, pour faire de la vidéo sans qu'on voit trop souvent la personne. Par exemple, si je prends, mettons, un exemple d'un courtier immobilier, ben de présenter, mettons, ses clients, de faire une vidéo que lui est en train, on le voit d'un peu plus loin, en train d'écrire sur l'ordinateur, ou il fait, on voit, par exemple, les maisons qu'il est en train de visiter, puis, oups, de temps en temps, on y voit un petit peu le visage pour qu'au moins, on le voit à l'intérieur. Ben c'est de respecter avant tout chaque personne, ses intérêts, mais surtout son sentiment et comment il se sent à l'aise aussi avec ses réseaux, parce que on peut pas tous travailler de la même manière, ça c'est sûr.
Puis tu confirmes que les gens qui ont des plus belles présences ou qui vont avoir plus d'impact au niveau des réseaux sociaux, ça va être ceux qui vont faire des vidéos. Puis est-ce que les gens les écoutent vraiment ou ils leur regardent juste 15 secondes?
Les gens les écoutent. En fait, la durée moyenne d'une vidéo puis la durée moyenne d'une écoute est à peu près de 7 secondes. Fait qu'il y a deux types de vidéos qui sont tendances actuellement sur TikTok et sur Instagram. Puis, parenthèse, ces vidéos-là, on peut les reprendre, les envoyer sur LinkedIn, les envoyer sur Facebook, les envoyer sur Pinterest puis sur YouTube Short aussi. Fin de ma parenthèse. Fait que oui, c'est vrai que les vidéos, même si la moyenne est de 7 secondes, quand c'est vraiment intéressant, les gens vont les écouter jusqu'au bout. Puis dans l'algorithme, surtout de TikTok puis d'Instagram, bien, plus les gens l'écoutent jusqu'à la fin, plus le vidéo va exploser, entre guillemets, puis il va être vu avec encore plus de personnes. Fait que dans les deux types de vidéos, on peut en faire un qui est plus information, formation, qui est un peu la tendance en ce moment, où est-ce que là, le courtier ou peu importe, l'entrepreneur va parler de son expertise. Fait qu'on apprend à connaître qui il est aussi en même temps. Et ces vidéos-là, il faut qu'ils soient accompagnés de sous-titres, parce qu'il y a des gens qui regardent, il y a des gens qui vont lire, puis il y a des fois des gens qui scrollent leur fil d'actualité sans son. Fait qu'au moins, ben là, même s'ils l'écoutent pas au complet, ils vont quand même capter certaines parties du contenu. Puis l'autre vidéo, tu sais, c'est ce qu'on voit où est-ce que t'imites un peu la musique, puis là, tu vas pointer des affaires. Ben ça, généralement, c'est des vidéos qui sont très courtes avec un haut taux de réécoute. Fait qu'on peut toujours balancer entre les deux selon...
Quand même cool. Puis j'aimerais ça que tu puisses peut-être approfondir un peu plus. C'est quoi les étapes qu'on doit faire avant de publier un post, peu importe la plateforme?
Ben en fait, moi, j'ai créé 9 étapes de publication avant de commencer à publier, peu importe c'est où. Fait que c'est rien de magique. C'est vraiment des étapes qui sont plus des pistes de réflexion à savoir c'est quoi qu'on va publier. Bien, la première, c'est de connaître c'est quoi ta vision puis c'est quoi ta mission. Parce que même dans différents travailleurs autonomes, bien, la mission ou la vision peut être vraiment différente. Puis ça, bien, il faut que ça se reflète sur nos réseaux sociaux. Parce que, encore une fois, on n'a pas toute la même idée derrière de ce qu'on veut, comment qu'on veut utiliser nos réseaux. Fait que connaître qui on est, c'est vraiment la base. Après ça, bien, de savoir c'est quoi son positionnement, c'est quoi mon avantage concurrentiel. Parce que si j'essaie de faire comme tout le monde, je ne réussirai pas à me démarquer. On a toute une personnalité, on a tous des éléments qu'on fait de plus que les autres, puis c'est ça qu'on veut reprendre puis qu'on veut partager. Fait que ma mission et mon avantage concurrentiel n'est pas nécessairement le même qu'un autre coach marketing, puis c'est ça qui fait notre distinction. Fait que sur les réseaux sociaux, si on veut apprendre à sortir du lot, bien, il faut qu'on trouve c'est quoi que moi ou ma compagnie a de différent par rapport aux autres. Ensuite, bien, on va observer c'est quoi nos compétiteurs. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font de bon? Parce que là, c'est comme si avec nos compétiteurs, on avait une étude de marché live. On est capable de savoir, bien, nos clients qui vont aussi chez mon compétiteur, bien, qu'est-ce qu'ils aiment? C'est quoi les types de contenus qui l'intéressent?
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
C'est si vous ne faites pas cette recherche-là dès le début, ça va être difficile de savoir c'est quoi le contenu que je veux publier. Parce que publier pour publier, ça ne sert pas à grand-chose.
On dirait que moi, j'ai de la misère à me différencier de mes concurrents si je regarde ce qu'ils font. Moi, honnêtement, j'ai jamais regardé ce que mes concurrents font sur les réseaux sociaux. Puis je me suis souvent fait dire que les gens, mes concurrents, me regardaient. Je parlais à des agences marketing qui disaient « On aime full le site de Vigie Service Juridique. On voudrait quelque chose d'un peu semblable. Bon. » Tu sais, j'ai entendu des feedbacks comme ça, que mes réseaux sociaux étaient super animés et que les gens aimaient ça. Mais moi, honnêtement, je suis jamais allée voir. On dirait que j'aurais peur de... justement de trop, tu sais, qu'inconsciemment je finisse par faire un peu la même chose, puis je voulais pas faire ça. Est-ce que je suis la seule cliente qui a, on dirait, un peu cette crainte-là?
Non, il y en a plein qui sont comme ça, puis c'est une fausse croyance, parce que des fois, quand tu vas regarder, on s'entend, là, tu vas pas les mettre dans ton fil d'actualité, puis te lever le matin en regardant tout ce qu'ils font. Ouais. Mais, de temps en temps, le fait d'aller regarder, bien là, tu peux voir c'est quoi leur réaction, puis tant mieux si... En analysant tes compétiteurs, tu te rends compte que ce que tu fais, c'est fort. Parce que là, ça veut dire qu'il faut que tu continues à faire ça parce que tu réussis vraiment à te démarquer. Fait que tu l'as, ton avantage concurrentiel. Les gens viennent te voir, toi, pour voir comment tu performes plutôt que l'inverse.
Puis, tu sais, une des choses que moi, je dis tout le temps, c'est « know your enemies », tu sais, pour savoir c'est quoi leur stratégie, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire pour pouvoir... d'un, pouvoir mieux contre-attaquer, pouvoir avoir la meilleure stratégie par la suite. Mm-hmm. Fait que, tu sais, des fois, juste de faire une veille stratégique pour regarder qu'est-ce que les autres font, pour pouvoir venir se réajuster, puis dire, bon, mais parfait, ma compétition est à veille d'être proche, d'être devant moi, ou, tu sais, de ma côté. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais prendre de l'avance par rapport à tout ça. Ça vaut vraiment, vraiment la peine de le faire aussi.
Oui. Mais toi, je viens d'apprendre quelque chose par rapport à ça. Je vais me forcer un petit peu plus.
Puis regarder ses compétiteurs, ça ne veut pas dire de les imiter. Ça veut juste dire, c'est ça, de les connaître pour savoir qu'est-ce qu'ils font de bien puis qu'est-ce qu'ils font de pas bien. Qu'est-ce que tu fais que toi, tu te démarques pour les autres.
Mm-hmm.
Puis dans mon autre point après ça, mon point 4, c'est aussi vous inspirer des autres. Parce que moi, souvent, ce que le monde, par exemple, me dit, hey, moi, je veux aller sur Instagram. Puis la première question que j'y pose à cette personne-là, c'est, t'es-tu déjà allé sur Instagram? Puis la plupart du temps, le monde, ils me répondent, non, j'aime pas ça. Mais comment tu peux dire que tu veux percer sur un réseau social si tu te donnes pas la peine de le visiter? Fait que quand on regarde un réseau social, on va voir ce qu'on aime, ce qu'on est capable de se rapprocher de nous aussi, ce qui ressemble un peu à notre mission, notre vision, même si on est entrepreneur de toiture puis on regarde quelqu'un qui vend des jouets, ben s'ils ont quelque chose qui nous inspire, ben on peut le réutiliser puis trouver notre sauce. Fait que personne va être capable d'être bon sur un réseau social s'il consomme pas au moins un peu. Fait qu'il faut s'inspirer aussi de ce que les gens font.
Puis tu vois, moi, une des choses que je fais ces temps-ci, c'est que comme je me suis fait voler mon identité, ben là, j'ai plus de compte Facebook, fait que je suis vraiment genre 100% LinkedIn, puis il y a des affaires qui passent de nos affaires à nous, puis je fais comme, hey, ça, c'est vraiment cher, ah, ça, on devrait améliorer, puis c'est une plateforme que je consommais beaucoup moins, tandis que là, je suis comme à côté 100% LinkedIn, puis je trouve ça vraiment le fun aussi, là. Puis dans les autres stratégies?
Ben dans le fond, quand on continue pour savoir qu'est-ce qu'on fait avant de publier, ben faut aussi, tu sais, j'en ai parlé tantôt, mais connaître nos ressources personnelles, ce qu'on est capable de faire, c'est qui est-ce qu'on a des employés, par exemple, qui peuvent faire nos vidéos, faire nos réseaux, ou est-ce qu'on est tout seul à tout faire? Parce que c'est sûr que quand tu as une équipe marketing, ben il y en a du stock que tu peux faire, mais si tu es tout seul, tu n'as pas la même réalité. Mm-hmm. Surtout si tu n'aimes pas, on parlait tantôt de quelqu'un qui n'aime pas être devant la caméra, ben il ne pourra pas publier aussi souvent ou le même type de contenu que quelqu'un qui est à l'aise devant une caméra, qui est à l'aise de bien parler, etc. Fait que ça aussi, ça rentre en ligne de compte dans notre stratégie. Avant de commencer à publier, ben, si on ne s'est pas posé ces questions-là, ben, si on passe à côté de quelque chose aussi.
Effectivement.
Puis après, ben, mon sixième point, c'est un élément qui est hyper crucial avant de commencer au début, c'est de faire une étape de brainstorm. Quand on fait un brainstorm, tu sais, on se limite sur rien, puis on regarde tout ce qu'on fait dans notre quotidien. Puis ça peut aller de notre famille avec nos enfants, avec je rentre au travail, je vais faire mon café, parce que tout ça, même si c'est pas nécessairement en parlant de la job, on va peut-être pas l'utiliser dans nos médias sociaux. Mais une chose qui est importante, les gens travaillent avec des gens.
Fait que,
les gens vont apprendre à aimer quelqu'un par ses habitudes aussi. Fait que si toi, tu vas promener ton chien puis tu le mets dans tes stories, ça a l'air anodin, mais il y a plein de monde qui vont faire comme « Ah! j'aime ça, Sylvie, elle a un chien. Sinon, bien, cool. Fait que les gens sont un peu voyeuristes. Fait qu'on n'est pas obligé de le faire. Mais quand on fait notre brainstorm, bien, c'est tous des éléments qu'on regarde. On regarde aussi les FAQ, c'est quoi les questions que les gens posent aussi. Fait que ça, on peut y répondre en vidéo, en contenu, en référence, en statistique, peu importe. Mais vraiment avec des FAQ, ce qui nous entoure, tu sais, ici, je regarde la caméra, le micro, bien, c'est toutes des affaires qu'on peut réutiliser. Fait que le brainstorm nous permet de vraiment tout mettre ça sur papier.
Tout sortir, dans le fond, qu'est-ce qu'on peut poster comme contenu. Puis tu recommandes-tu de faire ça avec des gens de ton entourage? Le fais-tu, toi, avec les clients? Comment ça fonctionne?
Oui, je le fais avec les clients, mais je propose souvent de ramener ça après chez eux. Puis qu'eux, à tête reposée sur 2, 3, 4 jours, ils gribouillent ça. Puis souvent, ben c'est une étape qui, tu sais, ça devrait donner 3, 4 pages complètes là, d'idées.
OK, quand même.
Après ça, tu passes ça dans ton entonnoir, puis selon ta stratégie, selon ton style, selon ta mission, ta vision, ce que tu veux sortir, ben là, tu vas chercher les bons points. Là, tu raffermis ça, puis après ça, tu commences à planifier. Tu sais, le calendrier de publication, là, surtout au début, ou de créer un pattern de publication, ben ça l'aide vraiment énormément pour savoir où est-ce qu'on va s'enligner, de ne pas toujours parler de la même affaire, puis surtout de ne pas oublier de publier.
Ouais. 100%.
Mais pas oublier aussi de garder ce contenu-là. Et effectivement, moi, je me souviens, la dernière fois que je suis allée travailler un mois en Floride, je m'étais fait justement coacher en marketing par rapport à ça, de prendre du contenu, tu sais, prendre des photos de moi en train de travailler avec un palmier en arrière, prendre, tu sais, le road trip, parce qu'en plus, c'était un avantage social qu'on avait mis en place au bureau, là, de dire aux gens qu'ils pouvaient aller travailler à Miami. Donc, tant qu'à y aller, c'est le temps d'en prendre du contenu, là, mais c'est vrai que d'avoir une belle liste claire de c'est quoi le type de contenu, mais ça te permet d'y penser puis d'en prendre des photos, prendre des vidéos quand c'est le temps, finalement.
Oui, exactement. Puis, tu sais, ça, c'est un autre point important, de la préparation de matériel. Tu sais, si tu t'en vas travailler, justement, dans le sud, whatever, bien, si tu as plein de contenu dans ton téléphone, après ça, tu peux le republier, tu peux le préparer. Tu sais, fait que préparer puis avoir du matériel en backup, c'est important parce que on s'entend que quand tu publies, on n'a pas toujours la créativité au moment présent. Quand c'est planifié, organisé, ben c'est plus facile.
Oui.
Tu sais, je donne l'exemple aussi pour, dans le fond, terminer avec ça. Mettons que tu veux faire, comme moi, je fais des citations du monde de l'entrepreneuriat puis des conseils Instagram. Fait que c'est un montage que je fais dans Photoshop, mais si j'en fais un à la fois, là, c'est long faire ça. Faut que tu ouvres ton logiciel, faut que tu penses, faut que tu crées ton idée. Quand tu es assis devant ton ordi, ben t'en fais une dizaine d'un coup. Quelqu'un qui est mieux préparé va faire en sorte qu'il va mieux publier régulièrement aussi. Et ça va avoir des meilleurs résultats.
Puis la dernière étape, c'est sûrement...
Publier. Oui, exactement.
Do it now!
Ouais. J'ai une citation par rapport à ça. Moi, je dis tout le temps, fait est mieux que parfait. Fait que fais-le, puis t'adapteras après. Parce que sinon, si t'attends que ton contenu soit parfait, tu feras jamais rien.
Parce que ça, c'est un bon point. Là. Tu sais, ça prend quand même un certain talent. Tu l'as dit, là, juste mettre une citation. Là. Si tu veux que ta citation soit belle... Ça te prend un logiciel, ça prend quelque chose. Tu sais, tu peux pas juste écrire mode texte, story, Instagram sur fond noir, sur fond rouge. Puis... Non, mais c'est vrai le pire, tu sais. Mais ça, moi, c'est ça qui m'inquiète beaucoup. Dire, ben là, je veux pas poster, mais poster mal, tu sais, poster du lettre contenu, là.
Oui, mais en même temps, il y a tellement d'outils, même gratuits. Je pense à Canva en ce moment, qui est le plus populaire. Ben, même si t'as pas de talent, t'es capable d'utiliser Canva, un template qui a pas trop de fioritures autour, là. Puis tu drag and drop ou t'écris directement. Fait qu'il y a tellement d'outils maintenant gratuits et payants aussi qui nous aident à tout améliorer qu'il y a pas de raison que tu puisses pas le faire.
Puis on peut se faire former par toi dans le pire des
cas. Ça, c'est clair.
C'est vraiment hot. Fait que là, la différence entre les différentes plateformes, justement, puis un peu, tu sais, je sais qu'il y a beaucoup d'écoles de pensée là-dessus, que, je sais pas, moi, tu es en train de vendre un service, justement, est-ce que tu es Musuline Kin, tu vends des produits, tu sais, peu importe, tu sais, j'aimerais ça t'entendre un peu, là, peut-être faire un premier tour d'horizon sur des mots-clés sur les différentes plateformes, puis après ça, on pourra préciser.
Oui. Bien, en fait, avant de parler des plateformes, un élément qui est super important, c'est que quand on veut augmenter notre visibilité, c'est vrai que si on est sur toutes les plateformes, ça va être mieux. Mais la réalité, c'est qu'on n'a pas 48 heures dans une journée. Fait qu'il faut qu'on fasse des choix. Mmh. Fait que souvent, on va choisir un ou deux réseaux sociaux qu'on va plus exploiter. Puis les autres, si on est capable, on va dupliquer notre contenu là-dessus. Fait qu'ils vont peut-être augmenter moins rapidement. Mmh. Mais au moins, si quelqu'un a besoin de nous autres ou de notre service, un service d'avocat sur Instagram, puis il tape ou il s'intéresse à ce type de contenu-là, bien là, oups, au moins, on a plus de chances d'apparaître. Peut-être moins que si on est vraiment impliqué dedans, mais quand même.
Mm-hmm.
Fait que pour répondre à ta question, ben c'est sûr que, mettons, LinkedIn, c'est un réseau qui est très business to business. Fait que là, on va s'adresser, tu sais, mettons que tu es courtier immobilier, puis là, tu dis, bien, moi, j'aimerais ça aller chercher des courtiers hypothécaires pour développer mon réseau. Bien, ça, c'est un réseau qui est parfait pour ça. On va parler davantage de côté relations professionnelles sur LinkedIn. Puis c'est un réseau, moi, ça fait partie de mes réseaux préférés, là, parce que les gens sont ouverts à avoir des relations d'affaires puis d'échanger par la messagerie, contrairement, mettons, à Facebook où les gens, quand tu es sollicité, par la messagerie, sont un petit peu plus réticents, mais il y a d'autres avantages. Fait que, tu sais, LinkedIn, c'est vraiment quand notre clientèle principale est du B2B ou que c'est des professionnels. Fait que, tu sais, si ta clientèle, toi, c'est tous des professionnels, bien, tu as intérêt à être sur LinkedIn parce que tu peux aller leur parler directement, même si c'est du business to customer.
Oui.
Facebook.
Effectivement.
Ouais.
Non, vas-y, Facebook.
Facebook, c'est un peu comme le... Tu sais, Facebook, tu peux pas être sur Facebook. Parce que c'est un peu la base de tout. C'est comme pas avoir de site, pas avoir d'enseigne, pas avoir de carte d'affaires. Facebook, de un, c'est le moteur de recherche, le réseau social le mieux référencé. Donc, le contenu qu'on met sur Facebook va même avoir un impact sur Google. Et il y a beaucoup de recherches qui se font par là aussi.
Mm-hmm.
Fait que pas avoir de Facebook, c'est comme pas avoir tes outils de base. C'est fait que la clientèle change, elle est un petit peu plus vieille, mais n'empêche que c'est la base et la publicité sur Facebook est celle qui marche le mieux et qui génère le plus de résultats, toutes plateformes confondues, sauf peut-être Google Ads, là, mais toutes plateformes sociales confondues. Fait que c'est vraiment comme une base. TikTok, Instagram... C'est des réseaux émergents. Puis, tu sais, dans le fond, les Reels, c'est la tendance en ce moment, c'est les vidéos. Puis TikTok, c'est un algorithme qui est merveilleusement puissant. Tu sais, oui, on nous écoute, mais on nous écoute sur toutes les plateformes, soit dit en passant. Mais un algorithme vraiment pertinent sur tout ce qui nous intéresse. Fait que même si ta clientèle est moins populaire, mettons, c'est moins la tranche d'âge sur TikTok, bien, le fait de, par exemple, si toi, tu parles de droit, parce que toi, tu donnes des conseils dans ta...
Oui, c'est ça. Oui, exact.
Fait que quand tu donnes, par exemple, des conseils, bien, ça va peut-être pas aller chercher la jeune de 10 ans, de toute façon, qui regarde ça pour regarder des conseils, je sais pas, des émissions de télé.
Mm-hmm.
Ça va aller chercher des gens qui s'intéressent à ton contenu. Fait que même, tu vas peut-être aller rejoindre moins de personnes que quelqu'un qui pose des jeux vidéo, mais c'est pas grave parce que tu vas aller rejoindre ta clientèle.
Des gens intéressés à ce contenu-là.
Exact.
OK, quand même. Mais tu sais, comme tu dis, il faut être sur ces plateformes-là pour les utiliser. Moi, je vais tellement pas sur TikTok que pour moi, c'est comme un monde. Puis quand on me demande, tu l'as dit tantôt, là, en début d'émission, je trouve que c'était bon parce que quand on demande de poster quelque chose du contenu sur une plateforme qu'on connaît pas, on se sent tellement comme... sorti de notre zone de confort.
C'est
clair. Je pense qu'une des choses, c'est d'y aller plus puis de voir un peu comment cibler.
Exact.
Instagram, moi, je l'utilise justement plus pour la marque employeur.
OK.
Parce que j'ai l'impression que les employés, tu sais, quand ils veulent voir les entreprises, tu sais, le lifestyle, si on veut, dans l'entreprise, ben, tu sais, je trouvais que Instagram, c'était une bonne façon.
Tout à fait. Puis c'est correct d'avoir des plateformes différentes avec des objectifs différents. Tu sais, dans la mission, la vision, le positionnement que je parlais tout à l'heure, ben, toi, tu as décidé que ton Instagram allait être davantage pour ta marque employeur. Fait que tu n'auras pas de double message. Tu vas juste miser ton contenu là-dessus pour aller chercher plus d'employés, plus d'avocats, plus d'employés, secrétaires, juridiques, peu importe. Fait que ça va apporter une crédibilité. Puis c'est correct de l'utiliser juste pour ça. Parce que là, tu n'auras pas de message mix. Puis peut-être que tes autres plateformes comme Facebook, LinkedIn, puis TikTok, tu pourrais les développer pour aller chercher des clients, par exemple.
Oui. Exact.
Puis tu sais, bien qu'à un moment donné, il faut se lancer aussi. Puis, tu sais, on ne peut pas toujours penser que mon post, mon vidéo, le discours que je vais utiliser, ça va être exclusivement, uniquement pour cette plateforme-là, parce que ça se peut que tu scores trois fois plus sur une autre plateforme aussi.
Mm-hmm.
Fait que souvent, tu sais, c'est de l'essai-erreur. C'est oui, de l'expérience. Oui, il y a de l'expertise en arrière qui va faire en sorte que ton investissement en temps et ton investissement monétaire va revenir plus rapidement dans tes poches aussi. Mais il y a de l'essai-erreur qu'il faut faire aussi, puis il faut se lancer, puis il faut le faire. Puis, tu sais, nous, on fait beaucoup de vidéos, on s'est acheté un télésouffleur, on est vraiment, genre, équipé pour faire en sorte d'avancer notre contenu. Mais quand on se trompe, on le garde aussi.
Ah, c'est bon.
On vient pas toujours avoir la vision, puis la version parfaite, puis avec l'équipement ultra professionnel, brandé, incroyable, etc. Oui, il y a certains contenus qu'on va aller... sur la qualité incroyable, sauf qu'il y a des moments où ce que on est des humains, c'est des human to human, puis tu sais, on veut avoir la proximité aussi, ce que nous aussi, on est capable de se tromper, puis on est capable de jaser. Un peu comme qu'est-ce qu'on fait avec la bulle immobilière, on se trompe, on rigole, on en parle, puis on se reprend pas, là, tu sais, c'est comme exact. On coupe pas, puis on le garde.
Oui. Rapidement, parce que je me doute que le temps file, tu sais, au niveau des heures de pause, là, sûrement que tu te fais souvent poser cette question-là, là, mais t'es-tu capable de nous donner des guidelines sur oui. À quelle heure faire les pauses?
Ben oui et non, parce que oui, il y a des heures plus populaires, il y a des heures qui génèrent le plus, mais la première chose à se poser, c'est ma clientèle qui me suit, c'est quand ils sont là et c'est quand ils sont réactifs. Hey, meilleur exemple que je peux donner. Mettons sur mes statistiques Facebook, mes gens sont là du lundi au vendredi principalement. Mais quand je publie le vendredi mon contenu, à moins que je mette un selfie puis je m'en vais à quelque part, là, ou tu sais, quelque chose de très léger, j'ai aucune réaction. Fait que c'est pas juste les meilleures heures de publication parce que souvent, mettons Facebook, ben ça va être soit le matin très, très tôt, le midi ou le soir. Je dirais que c'est plus 6-7 heures qui est le plus populaire sur Facebook. Mais encore là, ça dépend de ta clientèle et du contenu que tu as publié. Fait que c'est des indicateurs, mais 99% du temps, ben, c'est une grosse statistique que je viens d'inventer, là, mais c'est vraiment ta clientèle qui va te le dire c'est quoi les meilleurs moments.
Fait que, c'est des tests.
C'est des tests, exactement. Fait que oui, il y a des heures de pointe qui est souvent le matin avant le travail, le midi et le soir après le souper sur pas mal toutes les plateformes. Mais c'est vraiment quand toi, tu testes ton propre matériel que tu vas le voir. C'est quand ta clientèle est plus alerte ou à l'écoute de ton contenu. Fait que souvent, le soir, quand c'est très léger, les gens vont avoir plus tendance à liker puis participer, peu importe toute plateforme confondue. Mais quand c'est plus officiel, comme mettons des conseils, ben souvent, généralement, le matin, ça fonctionne encore mieux. Fait que, faut toujours tester. Il n'y a rien de magique hein, dans les réseaux sociaux.
Quand même, vraiment le fun. C'est vraiment un réel plaisir de te recevoir, Christelle. L'émission de la bulle immobilière est commanditée par Air Fortin. On tient à remercier Air Fortin qui commandite notre show. Vous êtes toujours à l'écoute de CJMD 96.9, l'alternative radio. La bulle immobilière est diffusée tous les samedis à 11h, juste après le jargon de Guillaume Fortin, mais juste aussi avant zone parallèle.
La bulle immobilière, présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com.
Yes, lui, il va l'acheter ton bloc.
Pas mieux que ça, pour le thermopompe aussi.
Vous écoutez CJMD 96.9.
Bulle immobilière au 96.9 Alternative Radio.
Vous êtes toujours à l'écoute de la bulle immobilière. Donc, nous sommes avec Christelle Serré aujourd'hui. J'espère que vous aimez à date tout le contenu hyper pertinent qu'on a eu. Le temps file en plus, l'heure avance. Moi, j'aime toujours ça, là, savoir un peu les erreurs à éviter là, quand c'est le temps de justement publier. Peu importe la plateforme, là, tu dois en avoir là, des histoires à raconter. Donc, c'est quoi un peu? Là, je veux t'entendre là-dessus. Moi.
L'erreur que les gens font le plus, là, c'est publier puis utiliser les réseaux sociaux comme outil de publicité pour eux-mêmes et pas comme réseau social. Fait que, tu sais, un réseau social, ça le dit dans son nom. Et il faut qu'on jase avec les gens, il faut qu'on ait une interaction, mais surtout, il faut qu'on mette du contenu qui va intéresser notre clientèle cible, qui va être sur les médias. Fait que publier pour dire hey, « je suis bonne, je suis belle, je suis fine, je suis capable », c'est souvent ça que les gens font. Ça génère aucun engagement, donc pas d'engagement, on stimule pas l'algorithme, nos publications sont pas vues. Fait que la première erreur, c'est vraiment de publier pour publier avec du contenu informationnel plate plutôt qu'être du contenu humain. Fait qu'il faut toujours penser, quand on publie, bien, est-ce que mon client cible va regarder ma publication puis va être intéressé? Si la réponse est non, bien, vous avez votre réponse. Publiez-le pas.
Non, c'est quand même assez simple, hein?
Vraiment. Il y a aussi, tu sais, moi, je pense aux fautes, là. J'ai déjà lu, tu sais, des articles de blog, de compagnie ou des posts. Mais tu sais, il y a des fautes dedans. Mais semble que tu te dis, bon, l'entreprise n'est pas très professionnelle.
Bien, c'est sûr que les fautes, il y a deux choses par rapport à ça. De un, on a tellement d'outils comme Antidote, comme les autocorrecteurs, ChatGPT, traduction Google. On peut tellement juste faire un copier-coller puis ça scanne rapidement. Fait que ça évite beaucoup de contenu. Mais faut pas se limiter encore à la perfection. Je reviens à mon fait est mieux que parfait. parfait. Fait que regardez votre texte, vérifiez-le, mais tu sais, passez pas 2 heures à regarder chacune de vos fautes si le style est parfait. Des fois, vaut mieux publier en premier, mais c'est sûr que selon le standing, quand tu fais plein de fautes, ça paraît pas bien non plus.
Oui, ça dépend du type de profession aussi, c'est sûr. Là. C'est sûr qu'un entrepreneur en construction qui fait une faute ou deux dans un poste qui est super bon, c'est moins grave qu'un avocat en droit des affaires.
Ça, mettons. C'est clair. On va ça, se c'est le dire. Clair.
OK. Okay.
Puis, tu sais, nous autres, on a déjà eu des discussions justement sur les vidéos, ces choses-là. Mais, tu sais, j'ai peur que je sois pas parfaite. J'ai peur que, tu sais, j'ai peur de, que les gens vont pouvoir me prendre pour telle chose, telle chose. Puis là, je fais comme, ouais, mais tu sais, fais-le donc. Puis merci. Arrête de penser que les autres vont critiquer qu'est-ce que tu fais. Est-ce qu'eux le font? La réponse est non. Ben prends la place qui te doit à toi. Là. Fait que, tu sais, les gens ont vraiment peur de foncer. Puis, tu sais, moi, je pense que c'est une des erreurs à éviter. Puis moi, je suis une personne qui aime pas être fronté devant. On est vraiment, tu sais, une équipe où ce que, pour moi, les courtiers avec qui je travaille, c'est des partenaires d'affaires. Fait qu'ils sont autant importants que moi. Si j'ai pas de partenaire, l'équipe, elle peut pas avancer aussi vite non plus. Puis ça a toujours été dans notre vision d'entreprise, sauf qu'il y a d'autres modèles d'affaires qui sont différents, puis c'est super correct aussi. Les courtiers immobiliers, généralement, ils veulent avoir le spotlight sur eux. Regardez-moi, je suis dans la pièce. Moi, je suis moins un peu ce genre de gars-là. Sauf que quand c'est le temps de livrer à marchandises, je le livre. Quand je m'arrive pour le faire, j'essaie de pas le reprendre parce que j'aime pas ça. Fait que, tu sais, je vais m'organiser pour faire un one take. Puis, tu sais, si on est capable de le faire le plus rapidement possible, puis que je m'en aille, je vais être vraiment content, mais au moins, je le fais. Fait que, tu sais, ça n'est une erreur à éviter, là.
Oui, les gens, ils veulent le refaire jusqu'à temps que ce soit parfait, mais les gens, ils n'aiment pas ça, la perfection, de toute façon. Fait que le côté naturel, puis oui, des fois, tu peux faire un rire, tu peux bafouiller, tu peux faire n'importe quoi, ben c'est correct, fais-le, publie-le, puis les gens vont apprécier, puis le parfait, souvent, c'est ce qui, entre guillemets, pogne souvent moins sur les réseaux sociaux parce que c'est trop stagé, c'est pas assez naturel.
Les gens, c'est ça qu'ils vont dire. Ils vont dire, écoute, c'est stagé, il est fake, comme un check là, il flash son cash, puis là, il a pris une compagnie de prod externe, genre, pour faire tout ça. Fait que là, moi, je le paye des gros salaires, puis finalement, il prend ça pour s'affronter sur des... Écoute, on entend ces choses-là, puis même nous, dans le milieu, c'est ce qu'on entend des autres, où on peut penser envers les autres aussi. Fait que, tu sais,
Mais il faut être capable de s'assumer, hein. Je pense que c'est ça aussi. Mm-hmm. Tu sais, quand t'es entrepreneur, tu t'assumes beaucoup dans ta façon de vendre tes services, de vendre tes produits, de brander ton entreprise. Fait que je pense que c'est la même chose sur les réseaux sociaux. Il faut à un moment donné que tu t'assumes aussi là-dedans. C'est pas tout le temps évident, là, mais je pense que c'est un peu la clé.
On est le pire juge de soi-même. Mm. Nous autres, on va s'autocritiquer. Tu sais, on prenait des photos tantôt, puis je nous écoutais parler, puis on a un peu le même principe. Mais il n'y a personne d'autre qui va nous regarder, puis qui va dire les mêmes caractéristiques que nous, on se dit à nous-mêmes, puis en photo, en vidéo, peu importe. Fait qu'on est vraiment pas des bonnes critiques de nous-mêmes. Non.
Tu vois, moi, mes enfants, récemment, ils m'ont dit, t'es gros papa. Fait que pour moi, ils voient la même affaire que moi là-dessus par rapport à tout ça.
Côté fréquence de publication, tu sais, y a-t-il des erreurs? Est-ce qu'on peut pas assez publier? Est-ce qu'on peut trop publier?
Oui, les deux. Mais dans le fond, la meilleure fréquence de publication, je reviens tout le temps à ce que je disais tantôt, c'est celle qu'on est capable d'assumer. Parce que c'est vrai sur Instagram ou sur TikTok, si on publie à tous les jours, ben on va augmenter rapidement en notoriété parce que notre contenu va être plus populaire, entre guillemets, ben dépendamment du contenu, il va rejoindre plus de monde. Mais mon mot magique, là, c'est la constance. Fait que t'es mieux de publier, par exemple, une fois par semaine, mais tout le temps, que de dire, je vais essayer de faire un challenge 30 jours, puis je vais publier tous les jours pour gagner en notoriété. Puis au bout de 2 semaines, de 1, t'as plus d'idée de contenu. Puis de 2, t'es écœuré, puis t'arrêtes. Fait que la constance, là, c'est vraiment la clé, dans le fond, dans toutes les stratégies marketing. C'est la régularité, puis tout le kit. Fait que
c'est vrai qu'il n'y a rien de pire que d'aller sur une page Facebook d'une entreprise puis voir que son dernier post date de 2012. Tu te demandes si l'entreprise est ouverte.
Tu sais, comme nous, notre équipe, ben, on vend des propriétés, mais tu sais, une propriété vendue. Ouais, mais quoi d'autre? Tu sais, il faut que ça soit d'autres choses que par rapport à ça.
Ouais.
Puis tu sais, le temps file, ça va vite. On aurait pris 1h30, 2 heures pour cette entrevue-là. Mais Christelle, j'aimerais ça que tu puisses me dire c'est quoi les bénéfices de ton entreprise? Puis pour quelles raisons les gens devraient te contacter pour avoir accès à tes informations ou ton contenu?
Mais dans le fond, moi, je suis une coach marketing. Fait que mon but, c'est pas nécessairement remplacer les agences, mais faire comprendre aux clients qu'est-ce qu'il est capable de faire lui-même. Donc, c'est sûr que si le client doit payer une agence, bien que moi, j'en ai eu une pendant 10 ans, une agence, là, c'est merveilleux aussi, mais c'est quand tu te délègues. Mais quand tu apprends à faire toi-même tes choses, souvent, tu as un côté humain qui va être beaucoup plus, qui va beaucoup plus ressortir pour tes clients. Tu vas mieux maîtriser tes coûts parce que l'investissement d'une agence, veut pas, ça coûte de l'argent. Puis on s'en sort pas avec des petits montants par mois. Fait que quand tu apprends à faire toi-même tes choses, ben l'argent reste dans tes poches. Ou quand tu formes tes employés qui sont sur place, ben encore une fois, l'argent reste dans tes poches. Puis il y a une synergie avec l'équipe aussi qui se crée. Puis mon objectif, c'est de les former, de les faire comprendre ou de développer des stratégies de contenu ou des stratégies marketing avec eux dans l'objectif qu'ils deviennent autonomes à la fin. Donc, qu'ils soient capables et fiers d'être eux-mêmes les fiers réels.
De leur réalisation,
merci,
là.
Merci.
Puis tu sais, je sais pas si toi, Sylvie, ça te donne le goût, là, mais tu sais, ouais. Moi, c'est comme à quelle place que je chigne, là. Puis tu sais, je suis comme une groupie de chacun de nos invités. Je ferai affaire avec... Ben, je ferai affaire, mais la réalité, c'est que je fais affaire pas mal avec tout le monde qu'on rencontre à nos émissions. Tu vois, j'ai comme plein de projets en cours actuellement, puis je rencontre ces gens-là qui m'aident à orienter mes différents projets. Fait que je trouve ça vraiment, vraiment
cool.
Donc,
vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas à nous écrire sur les réseaux sociaux. Vous allez pouvoir devenir client de Jean-François et avoir la chance de le rencontrer. Mais non, mais je pense qu'on peut quand même faire une parenthèse par rapport à ça. Hein. La nouvelle saison va quand même commencer... en janvier, puis ça va te prendre des invités pertinents. N'hésitez pas à soumettre votre nom. Les gens n'osent pas, on dirait, le faire. Mais vous avez du contenu, vous dénoncez des entrepreneurs de votre réseau que vous pensez qu'ils ont des sujets hyper intéressants, finalement, à aborder à la bulle.
100%. Puis, tu sais, on va commencer la nouvelle saison, la saison 12 avec Mickaël. Là, j'ai toujours peur de dire son nom, mais c'est Falestini. Il est gestionnaire immobilier, c'est un investisseur immobilier, c'est un gars qui a un bon réseau. Il est impliqué avec moi aussi comme administrateur au réseau immobilier. Fait que c'est quand même vraiment, vraiment le fun.
Raison de plus de venir. Je vous tape ses nerfs là, depuis 3 saisons. Vous ne vouliez pas venir, je ne serais plus là.
Oh, ben non, arrête Sylvie.
C'est de l'humour.
Arrête
ben non,
Sylvie.
Je déconne.
Mais Christelle, moi, le point le plus important que je veux savoir, c'est de quelle façon qu'on peut communiquer avec toi.
Le plus simple, c'est via les réseaux sociaux. Christelle Seré, j'ai tous les réseaux sociaux possibles et imaginables. Donc ça, c'est la manière la plus facile. Ou christelleseré.com, mon site web avec toutes mes informations.
Vraiment cool. Yeah. Merci beaucoup, Christelle, d'avoir été présente avec nous, de partager tout ce contenu-là pour nos auditeurs. Merci à nos fidèles auditeurs qui ont été présents pour la 11e saison. C'est quand même pas rien. Tu sais, les gens, ils disent, je fais des podcasts, j'ai ci, j'ai ça. Puis, tu sais, nous autres, ça fait quand même 6 ans qu'on en fait, là. Fait que ça fait vraiment longtemps. Puis, on roule notre boss depuis un méchant bout de temps. Manquez pas le bingo non plus. Dernière émission de la bulle immobilière. Fait qu'écoutez, c'est le temps de vous souhaiter des joyeuses fêtes. Merci pour ce temps partagé avec nous.
La bulle immobilière, présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com.
Yes, lui, il va acheter ton bloc. Airfortin.com, yes!
CJMD 96.9. Téléchargez l'application Google Play et Apple Store.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.